Bienvenue au balado-diffusion de Église M. Votre opinion est importante pour nous, alors n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions à l'adresse suivante. info@commercialeglisem.com
Aujourd'hui, on termine la série de messages sur Dieu merci, c'est lundi. Il y en a qui disent Dieu merci, c'est la fin de la série. Dieu merci, on termine cette série-là sur le travail. En fait, sur le travail, mais c'est plus que le travail. C'est beaucoup plus large que le travail. On a vu dès le début, la première chose qu'on voit Dieu faire dans la Bible, la première chose, quand on rentre dans la Genèse, chapitre 1, verset 1, ça commence en disant, « Au commencement, Dieu créa. » Dieu a travaillé, Dieu a fait quelque chose, Dieu a créé. Dieu s'est mis à l'ouvrage. Et dès le départ, c'était le plan, et c'est le plan de Dieu pour cette réalité-là dans notre vie de bonheur. Et on réalise pas que le bonheur passe par le travail. Merci pour ceux... Ça, c'est ta retraite, c'est pour ça. C'est quelqu'un à la retraite qui dit ça. Donc, mais en fait, on a vu que Dieu avait le plan de bonheur pour nous et que c'est dans Genèse, au deuxième chapitre, le verset 15, on voit tout de suite que Dieu avait quelque chose de bien spécial. Il a pris l'homme, l'a placé dans le jardin d'Éden, le paradis sur terre, pour avoir du plaisir dans un resort tout inclus. Je vous ai montré ça, comment ce paradis sur terre... c'est notre conception du paradis. Notre conception du paradis, c'est que c'est un resort tout inclus, buffet, on s'en va se faire griller sur la plage. C'est ça pour vrai. On pense que le paradis ou le bonheur, c'est de pas travailler, de rien faire. Ça, c'est pas payer une semaine, deux semaines, trois semaines. Une vie, c'est long. Une vie, imaginez l'éternité. Eh non, Genèse, deuxième chapitre, le verset 15, dit ceci... Prochaine diapo, ça dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le... » Aïe, aïe, aïe. Cultiver et garder. Dieu veut qu'on fasse quelque chose avec le jardin. Il veut qu'on fasse quelque chose, il veut qu'on travaille dans le paradis. Aberrant. C'est terrible. Dans notre conception moderne ou dans notre conception à nous du bonheur, du paradis, c'est horrible de penser que Dieu crée un paradis parfait puis qu'il met l'homme dedans pour cultiver et le garder. Cultiver et garder. Et on a regardé rapidement les mots à ce moment-là qui étaient le mot cultiver qui est avad, qui veut dire travailler, servir un autre, un employeur ou Dieu. Et on a vu aussi le mot garder, le mot chamar, qui veut dire, pas un chamar, là, chamar. On va au début de la Bible du comment Dieu voit les chats, hein, de suite, non? Je suis pas un grand fan des chats en passant, juste. Je suis pas un grand fan des chats. Pourtant, j'en ai eu des chats dans ma vie, mais justement parce que j'en ai eu que je suis pas un grand fan des chats. Donc, non, mais le mot chamar qui est là, c'est faire attention à prendre soin, surveiller, protéger, comme être là, comme englobé pour prendre soin. Et à travers ça, on a pu constater que le travail, en réalité, ce n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas une malédiction et qu'on a vu aussi que Dieu nous a conçus pour... Et voilà, travailler et il nous appelle à servir. Dieu nous a conçus pour travailler et il nous appelle à servir. Donc, il est question aussi dans tout ça de voir le travail dans le bon contexte. Dans le bon contexte, que c'est une bonne chose et que ça faisait partie, dès le départ, du plan de Dieu et que ça fait encore partie du plan de Dieu en ce moment. Et je vais vous révéler que ça fait partie du plan de Dieu dans l'éternité aussi. Parce que dans la restauration de la création, il y a l'or, l'argent, les richesses, les villes, c'est le résultat du travail, ça. C'est le résultat du travail. Donc, j'ai décortiqué ces aspects-là du travail en commençant par comment on doit changer notre vision du lundi, notre vision de demain. Avez-vous hâte? Non, moi, je parle d'avoir de changer de vision. Ensuite, on a regardé comment trouver des manières de transposer cet aspect-là dans le quotidien, comment on peut servir Dieu en servant les gens. Et j'ai couvert comment le péché a brisé toutes nos relations, incluant la relation avec le travail, la relation avec les autres. Et quand ça inclut les autres, c'est pas juste notre famille, mais ça inclut les gens avec qui on travaille, collègues, les gens qu'on côtoie, dans les milieux qu'on est, peu importe où on se trouve. Mais aujourd'hui, on termine cette série-là et le titre de mon message aujourd'hui va être très intriguant pour plusieurs personnes. C'est celui-ci, c'est Joseph, John Coltrane et Pat Gelsinger. Joseph, John Coltrane et Pat Gelsinger. C'est quoi le lien entre ces personnes? Excellent, excellente question que vous avez là. Mais vous allez vous en douter, ça sera peut-être pas long. Peut-être vous vous en doutez déjà un petit peu, mais je vais répondre à ça. Mais avant de passer au travail de cette prédication-là, avant de passer en chantier, on va juste réfléchir un petit peu au travail. Je vais juste vous emmener une image plus globale du point de vue de d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres religions, d'autres récits historiques du travail. Comment le travail est perçu à travers l'histoire? Et une des choses, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Pandore. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Pandore? Tu sais, peut-être ce que vous connaissez, c'est la boîte de Pandore. En fait, la boîte de Pandore n'existe pas. C'est pas une boîte, c'est un vase en passant. Mais cette histoire-là de Pandore, en fait, c'est une histoire qui fonctionne avec la mythologie grecque, où t'as Zeus qui offre la main de Pandore au frère de Prométhée. Et c'est parce que ce qu'il veut en réalité, c'est qu'il veut se venger de Prométhée. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il a mis dans, il va donner à Pandore un vase dans lequel il met tous les maux de l'humanité, tous les problèmes, toutes les calamités, tout ce qui est terrible. Pour ça qu'on appelle ouvrir une boîte de Pandore, ça se met à aller mal quand on ouvre ça. C'est de là que vient cette expression-là. Mais il envoie ce vase-là avec Pandore, puis il dit, rouvre jamais ça, ne touche jamais à ça, laisse-le toujours fermé. Puis il fait la promesse, mais Zeus, même s'il est interdit de l'ouvrir, elle va l'ouvrir. Et dans ce vase de Pandore-là, qu'est-ce qui se trouve? Tous les maux d'humanité, genre la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, l'orgueil et le travail. Les autres, ils mettent le travail là-dedans. OK. Dans le Enuma Elish, pour ceux qui connaissent pas, le Enuma Elish, c'est pas un magazine de dernière heure, là. Enuma Elish, c'est un récit historique, en fait, des origines de la création qui est mésopotamien, babylonien, en fait, plus précisément. Et dans ce livre-là, dans cette histoire-là, ce récit-là, c'est un peu le même pattern. Il y a, il s'appelle Marduk. Marduk dans l'histoire. Marduk, c'est comme l'espèce de dieu suprême dans toute la patente. Et les dieux ont créé le monde et ensuite ils ont créé l'homme, qui ressemble drôlement au récit de la création qu'on a. Et vous savez pourquoi ils ont créé l'homme? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'après avoir créé le monde, ça prend quelqu'un pour s'en occuper. Fait qu'ils se sont dit, Marduk, il dit, on va créer l'homme pour qu'il travaille et que les dieux se reposent. Intéressant comme point. Quand on fouille dans les histoires, religions, historiques, des faits, on voit souvent cette notion-là que le travail est une calamité, que c'est une malédiction, c'est un mot quasiment maudit. C'est diminutif, le travail. Et là, t'arrives dans... Tu sais, on part, puis c'est un peu ce qui a calqué notre société. Et là, t'arrives, tu lis le récit de Genèse, où tu vois, dès le commencement, Dieu créa, Dieu travaille, et on voit Dieu en train de travailler les deux mains dans la terre. Il crée l'homme, et la Bible nous dit qu'il prend plaisir. C'est bon, ce que je viens de faire. Il y a une espèce de contraste là-dedans. Il crée un paradis où l'homme travaille. Donc, il y a une espèce de... Partout ailleurs, sauf dans le récit de la Bible, où le travail est valorisé et vu comme faisant partie du plan de Dieu. Et parce que ça fait partie de ce qui est bien et que Dieu veut qu'on prenne plaisir à tout cela dans sa création, c'est ce qui rend l'idée que Dieu avait une idée que la vie parfaite inclut le travail, inclut qu'on travaille. Et si vous allez un petit peu plus loin, quand vous réalisez qu'un Jésus est venu sur terre, Jésus n'est pas venu en dieu grec, il n'est pas arrivé en aristocrate ou en cravate ou je sais pas trop quoi, non, il est arrivé en charpentier. Ou qui veut dire un ouvrier, un travailleur, quelqu'un qui travaille, une espèce de col bleu. Il arrive puis il débarque sur terre de cette façon-là. Il a dit ça, là. Sécurité. Et quand on regarde on va plus loin. Martin Luther, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler le matin? Pas Luther King, le Martin Luther. La réforme, 1517. D'où vient le protestantisme évangélique dans lequel on fait partie? Le gars qui a fait, sur lequel on a basé les 5 solas en réalité. Donc, la réforme, les 95 thèses qu'il avait établies, sur lequel, en fait, lui, c'était un verset qui avait déclenché tout ça dans Romains. Le juste vivra par la foi. Comment ça se fait qu'il faut qu'on fasse des affaires? Et tout ça a déclenché. Bref, je vous fais un résumé en quelques phrases de l'histoire au complet, là. Mais Martin Luther a fait quelque chose de super intéressant. Il a fait une étude vraiment particulière sur le travail. Et il a commencé à regarder plein de textes. Et un des textes sur lesquels il s'est arrêté, que je veux vous emmener aujourd'hui, psaume au 147e chapitre, le verset 13 et 14 qui dit ceci. Il est parti avec ce texte-là. Ça dit, « Car il renforce ta sécurité chez toi. Il fait du bien à tous tes enfants. Dans ton territoire, il assure ton bien-être. Il te donne en suffisance le meilleur blé. » Wow! Dieu, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il renforce ta sécurité, assure ton bien-être, puis te donne en suffisance. Ce qu'on regarde dans ça, c'est que, et je commence en disant, vous savez, la Bible mentionne à maintes reprises que Dieu nous nourrit. Dieu nourrit, Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Mais comment Dieu fait-il cela de nous nourrir? Et c'est pas simplement spirituel, c'est physique aussi. Dieu nous nourrit. Et comment il fait ça? L'agriculture, les cultivateurs, les fermiers, les transporteurs, les gens qui lui emmènent, puis qui jusqu'à notre table, en fait. Dieu prend soin de nous à travers les mains des gens. Dieu s'occupe de nous à travers le travail et les mains des gens. Et ça, on l'oublie parce qu'on pense que c'est juste nous autres. Mais la Bible nous mentionne que Dieu nous a donné cela. Le travail, c'est d'en profiter. C'est un bien que Dieu nous a confié. Et là, quand on regarde un petit peu plus loin, comment on peut aller plus loin avec ça en disant, ben, OK, il renforce ta sécurité. Il me met en sécurité. Comment est-ce que Dieu nous met en sécurité? On pourrait dire que oui, ben, Dieu prend soin de moi dans ma famille, dans ma maison, mettons, dans mes déplacements, tu sais, des choses comme ça. Mais moi, je vais vous montrer encore plus loin que ça. Dieu rend ta société sécure par les magistrats, les autorités, ceux qui appliquent les lois, les gouvernements. Dieu utilise les instances qui sont là pour te protéger, pour ta sécurité. Dieu prend ça pour t'emmener en sécurité. Maintenant, si on va plus loin que ça, comment on peut réaliser à quel point... Tu sais, parce que nous, on se dit, les autorités, c'est un mal nécessaire. Non? OK. Si je me fie à comment les gens perçoivent l'autorité, c'est comme un mal nécessaire. Oh non, pas eux autres encore, pas encore les espèces de patentes. Et on réalise pas quelque chose. C'est que... Dieu utilise ses moyens pour nous protéger, nous rendre en sécurité. C'est comme qu'on fait avec notre corps. La même chose qu'on fait avec notre corps. On le protège, ou mettons, on fait avec notre maison aussi. Comment on fait les choses? On prend soin. Comment on prend soin de notre corps ou de notre maison? De quelle façon on en prend soin? Concrètement, c'est en travaillant. Littéralement, quand je me lave ou je me rase, je travaille. Je fais quelque chose pour m'entretenir. Des fois, c'est dépendamment des jours, des fois, c'est plus d'ouvrage que d'autres. Hein? Non, c'est vrai. Il y a des journées, c'est plus de travail, que d'autres. Mais c'est du travail. Je prends soin de moi, je prends soin de ma personne, mais je prends soin de ma maison. C'est en travaillant ou en travaillant, puis je paye quelqu'un pour le faire. Mais ça reste encore en travaillant. Ça reste encore en faisant quelque chose. Donc, si on le fait pas, prendre soin de nous, exemple, ça va aller de mal en pis. Et ultimement, vous pouvez en mourir. Si vous prenez pas soin de vous, ultimement, ça peut mener à la mort. Donc, on le réalise pas, mais ce travail-là, c'est une façon qu'on prend soin de nous. Dieu prend soin de nous au quotidien, à chaque instant, à travers les mains et le travail des autres. Donc, tout travail est bon et a comme plan que Dieu l'utilise pour prendre soin de nous autres. Et quand on comprend que c'est la vision de Dieu, ça va nous emmener à nous débarrasser d'une espèce de snobisme par rapport au travail. Snobisme dans le sens que, oh, lui, c'est un meilleur job qu'un autre, puis, oh, ben, lui, tu sais, comme un peu une espèce de valorisation. On arrête de valoriser seulement des emplois hauts salariés ou spécialisés, puis on se rend compte que tout travail, c'est Dieu qui l'utilise et il est là pour une raison. Et à ce moment-là, on se rend compte que la valorisation, c'est dans le travail, pas dans le type de travail que tu fais. Parce qu'on peut tirer, et c'est pour ça que je vous disais que le péché a tout brisé dans nos relations, c'est qu'en réalité, En brisant tout ça, il brise notre image qu'on a et on se valorise à travers le travail. On trouve une identité à travers le travail. On pense qu'on vaut plus parce qu'on a un travail ou un salaire qui vaut plus. Et c'est ça qui devient tordu. Et ce que Dieu a fait, c'est pas comme ça qu'il a conçu les choses. Tout travail pour Dieu est pareil parce qu'il est un élément du plan global. Nous, et malheureusement, en tant qu'humains, c'est ce qui fait que ça distorsionne. Et c'est pour ça qu'on voit dans nos relations avec les autres, dans notre relation avec nous-mêmes, avec Dieu, ça devient distorsionné parce que le péché a comme cassé ça. Et en cassant cette image-là, c'est comme si les fils ont tous été rebranchés à mauvaise place. Fait que sur quoi on met de la valeur, c'est quelque chose que Dieu dit, c'est pas ça qu'il faut mettre l'emphase dessus. Dès le départ, et j'aime cette analogie-là, je l'ai amenée déjà à plusieurs reprises, mais juste vous comprenez, quand il y a eu ce brisement-là au jardin, là, le plan de Dieu, c'était que l'on utilise les choses et qu'on aime les gens. Mais le péché a fait que ça a été cassé. On aime les choses et on utilise les gens. Ça a cassé les choses. Et en étant tout brisé, on n'est plus capable. C'est pour ça que Jésus dit, c'est en moi que vous allez trouver ça. Parce que c'est lui qui peut rétablir tout cela. L'identité, la valeur, ce que t'es, le plan qu'il y a. C'est lui qui rétablit ça. Et c'est pour ça qu'il dit, venez à moi. Mais on vient à lui parce que souvent, puis je le dis pas de manière apportant un jugement, mais parfois on va à Dieu ou à Jésus simplement pour être sauvé. En fait, je veux juste une étiquette pour me sortir de l'enfer. C'est ça qui arrive parfois. C'est comme, oh oui, Jésus m'a sauvé. Oui, mais ça s'arrête pas là. Jésus veut tout restaurer dans ta vie. Et il veut que tu aies la bonne image de toi-même. Et ce qui se passe avec le travail, c'est exactement la même problématique. C'est qu'on comprend le travail comme étant un problème parce que c'est une souffrance. Et souffrance égale mauvaise chose qu'on doit se débarrasser de notre vie. Ceci étant dit, on valorise les salaires ou les emplois spécialisés en se disant « Ah, eux autres. » Puis c'est comme si on oubliait que Dieu a jamais préconçu ou planifié ça de cette façon-là. Ça n'a jamais été le plan. Mais en quelque part, le plan a été détruit par le péché. Donc, tout le monde qui fait bien son travail, ça plaît à Dieu et c'est sa volonté. Juste vous compreniez. Fait que souvent quand vous dites, ouais, moi je suis pas un pasteur, je suis pas dans le ministère, c'est pas ça le point. Le point c'est de faire bien ce que Dieu t'a donné comme don et talent à faire. Ça tu sers Dieu et tu accomplis sa volonté. Je pense que je suis en train d'enlever le fardeau de la culpabilité de quelqu'un en ce moment. Tu veux savoir comment bien servir Dieu par ton travail? Sois excellent, fais le bien ce que tu fais. Dieu t'a donné un travail à faire, excelle dedans, sois le meilleur. Développe l'excellence dans ton travail. Comment je peux honorer Dieu? Moi, je suis un pilote d'avion. Fais atterrir l'avion. Ça, c'est une bonne job. Non, mais c'est vrai. C'est cette notion-là de distorsionner notre point de vue par rapport au travail et comment est-ce que c'est en fait pour Dieu, plus vous allez le voir, plus je l'ai montré à travers la série, plus vous allez voir, plus c'est lié ensemble avec le service. En fait, quand on sert Dieu, le travail qu'on fait, si on le fait bien puis on le fait pour Dieu, on est en train de servir Dieu. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Cherche la volonté de Dieu pour ma vie. Fais bien ce qu'il t'a donné de faire. Ça, t'es en train de faire sa volonté. T'es en train d'accomplir exactement le plan. Vous allez voir que ça va être pas mal moins lourd à chercher le plan de Dieu dans votre vie. Il y a une histoire qui est super intéressante, une histoire en vrai de Eric Liddell. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce gars-là. Eric Liddell, son histoire est racontée dans le film de 1981, Chariots of Fire. Je sais que c'est un film, mais c'est une histoire super intéressante d'un coureur qui a couru aux Olympiques. Et j'ai une citation de lui que je trouve extraordinaire. Prochaine diapo. Il dit ceci, « Dieu m'a fait rapide et quand je cours, je ressens son plaisir. » Il courait, puis il se disait, plus je cours vite, plus je vais vite, plus je sens que Dieu est content. Parce qu'il m'a fait vite, il m'a fait rapide. Il a fait ça avec moi. Quand tu fais bien ton travail, tu sers Dieu. T'as pas besoin d'être un pasteur ou une affaire de même pour servir et plaire Dieu. Tu plais à Dieu. Non, mais ça enlève un petit peu, parce que souvent, on nous dit, faut être pasteur, hein, tu sais. Non. C'est pas, Dieu aime pas plus les pasteurs. Dieu a pas plus d'amour pour les pasteurs que pour les autres. Dieu aime pas plus n'importe qui que n'importe qui. Dieu aime tout le monde égal. La Bible nous dit que Dieu ne fait aucun favoritisme. Tous sont pareils. C'est pas parce que je suis ici que Dieu m'aime plus ou Dieu se plaît plus. Non, Dieu se plaît en moi quand je fais ce qu'il m'a appelé à faire. C'est là que Dieu est content. C'est là que Dieu... Et il fait la même chose avec toi quand tu fais ce qu'il t'a appelé à faire. Dieu est heureux, Dieu se plaît en toi. Moi, vous donner un des plus beaux exemples dans la Bible de ça, que c'est pas une question d'être pasteur. Et si vous deviez, imaginez que vous devez aller à, tu sais, mettons, après l'église, des fois, il y a des tables avec des livres où on vend des... Tu sais, mettons que vous devez aller dans une église et que vous voyez à l'arrière, à une table, il y a une biographie avec le titre. En gros, c'est écrit « L'homme que Dieu utilise » ou « La femme que Dieu utilise ». Vous penseriez immédiatement à une histoire de missionnaire, d'enseignant, de chef d'église, de pasteur, de whatever, de spécialiste, évangéliste, de réveil spirituel, whatever, peu importe. Vous auriez probablement cette impression-là. Mais ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que la personne qu'on va regarder n'a pas été pasteur, n'a jamais été responsable de ministère, de leader de petit groupe, de département dans une église ou quelque chose du genre. Jamais. Non, mais il était un extraordinaire administrateur, talentueux, intelligent, qui excellait dans tout ce que les autres, par-dessus toutes les autres, ce qu'il faisait, lui, il excellait là-dedans. Et on va regarder l'histoire rapidement de ce personnage-là. Dans Genèse 41e chapitre, le verset 46 dit ceci. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Je veux juste vous arrêter là. C'est hallucinant, Joseph. Peut-être que vous avez déjà entendu Joseph, là, roi des rêves, là. Film, là, où je sais pas trop, le prince d'Égypte, là, pas comment vous le voyez. Lui, là, ce Joseph-là. Souvent, son histoire est mise l'emphase sur son passé. L'enfance est mise sur son passé. Ah, oh, le jeune, le petit kid de la famille, les grands frères le détestaient, l'ont jeté, l'ont vendu, s'est ramassé chez Potiphar, s'est fait accuser de viol, s'est ramassé en prison, et souvent l'enfance de sa vie est là-dessus. Ouais, mais à 30 ans, le gars, il va gérer l'Égypte. 30 ans. Pensez-y, là. Pense pas que le pharaon a décidé, il dit, un jeune de 30 ans qui sort de prison, pas on va le mettre à la tête de l'Égypte. Non, il avait vu ses capacités, il avait vu. Et regardez bien comment Pharaon avait vu en lui, avait reconnu au verset 39. Regardez ce que ça dit. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Pharaon, là, il est wise. Là. C'est un gars averti. Tu gères pas l'Égypte de même. Le gars voit ce kid-là qui sort de prison, qui a 30 ans. 30 ans. 30 ans sort de prison. Ta vie est finie, mon grand. Lui, non. Il est devenu le plus grand magistrat. Deuxième dans tout le pays d'Égypte. Et il a, en quelque part, contrôlé une partie de l'économie mondiale. C'est fou, là. 30 ans, le gars, là. Quand il est parti, il a commencé ça. Il a été mis à la tête d'Égypte. Pharaon a dit, après moi, là, il n'y en a pas d'autre, c'est toi. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot intelligent, dans ce texte-là, c'est habileté à comprendre, à discerner, voir les choses, voir venir les choses, être habile. C'est cette notion-là. Et ce qui est fou, c'est que dans l'hébreu, le mot, il y a un éventail très large de compétences pratiques. Il inclut et il comprend la capacité ou d'être capable de travailler l'artisanat, le bois, les pierres précieuses, le métal, la couture, l'administration, les aspects juridiques, la justice. Ça inclut ça dans sage ou intelligent. Il y a toute cette notion-là. Le pharaon, il dit, toi, là, tu l'as l'affaire. T'es vraiment t'es intelligent. Tu vois venir les choses. Et là, il se ramasse en tant que cadre supérieur d'Égypte. Le travail de Joseph touchait presque tous les domaines de la vie. En fait, personne ne s'en est rendu compte. Bon, en fouillant puis en creusant dans cette série-là, j'avais tellement hâte de vous parler de ce personnage-là parce que je me disais, c'est fou comment est-ce qu'on le voit même pas dans le texte. On néglige un petit peu puis on met l'emphase juste sur son passé, mais pas sur ce que Dieu fait avec lui et tout ce que Dieu a mis comme capacité dans cette personne-là. Parce que la réalité, c'est qu'en tant que cadre, le Joseph là, touchait à presque tout. Son bureau, probablement là, le bureau avec qui il exigeait qu'il apprenne bien des choses. Là. La législation du pays, la communication, la négociation, le transport, les méthodes sûres et efficaces de stockage des aliments, la construction, la stratégie, les prévisions économiques, la tenue des registres, la paie, les traitements de transactions, à la fois par le biais de devises ou par le biais de troc, les ressources humaines, les acquisitions de biens immobiliers. C'est tout là-dedans, ça. Le gars doit gérer tout ça, là. À 30 ans, il est mis là. C'est un prodige, ça. Il excellait dans ce qu'il faisait. En fait, Dieu lui avait donné une capacité de voir et de cerner, d'administrer les choses. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pharaon a dit, « Toi, tu l'as l'affaire, tu l'as la bosse des affaires, je te mets là. » C'est que les gens d'affaires, ils fonctionnent comme ça. Le pharaon, il se dit pas, « Ah, as-tu vu le passé de Joseph? » Il savait, hein, il avait conté l'histoire, en fait, vous en pas là. Il est au courant de tout ce qui s'est passé avec Joseph, puis qu'il s'est ramassé en prison, puis qu'est-ce qu'il a fait en prison. Puis il raconte une histoire, puis il se rend compte, les gens d'affaires qui sont en haut de même, puis qui ont avancé, ils savent discerner dans les autres. Ils voient le potentiel, puis ils disent, toi, tu l'as l'affaire. Je veux t'avoir. Ouais, mais tu sais que je sors de prison, c'est qui décide? C'est moi qui mets en personne, c'est moi qui décide, tu t'en viens à côté de moi. Parce que je sais que tu es capable de le faire. Quand Dieu vous dote de talents, de capacités, de dons, ne me remettez pas en doute ce que Dieu vous a donné. Les gens sages vont le discerner. Ils vont le voir, vont dire, « Toi, allez, j'ai besoin de toi. Viens ici. » Ils vont voir les dons et les talents que vous placez en vous. Et ça, vous êtes en train de servir Dieu. C'est comme ça que Joseph a servi Dieu. Joseph a servi Dieu parce que nous, on voit juste, comme je vous disais, le passé... On fait un raccourci un peu trop rapide entre son passé, l'histoire qui s'est passée avec ses frères, et on saute à la fin de sa vie quand ses frères viennent commander de la bouffe, puis est-ce qu'ils ont plus rien à manger, puis là, partout, c'est étendu dans tous les pays, là, puis là, c'est lui qui gère tout ça, puis il a le contrôle sur tout le monde. Là. Hey, imaginez-vous, là, si le gars passe un power trip, là, ça va mal tourner, ça, là. Mais non, c'est un homme intègre, juste devant Dieu. Dieu lui a confié de grandes choses. Il a été fidèle dans les petites choses, banales dans le champ, où ce que ses frères l'haïssaient parce qu'il faisait les bonnes affaires. Et la même chose s'est passée dans la maison de Potiphar, où ce qu'il servait la maison de son maître, il faisait grandir toutes les choses, et il s'est ramassé à être mis en prison injustement. En prison, il s'est mis à continuer à servir et faire les petites choses, et jusqu'au bout. Et nous, ce qu'on voit, on fait souvent le raccourci rapide entre l'histoire de son passé de ses frères et ses frères qui viennent le voir et dire, ah, il leur a pardonné. Oui, mais ça se résume pas à ça, l'histoire de Joseph, là. C'est un administrateur. En fait, si Forbes ou ces magazines-là existaient, il serait probablement en couverture Time Magazine. Il aurait été là. Ça aurait été l'homme de l'année, mais en fait, ça aurait été l'homme de l'année pendant 7 ans, en réalité, là, parce que ça a été 7 ans où il y a eu les années de famine et qu'il s'est mis à, il avait tellement bien géré les 7 années précédentes qu'il avait emmagasiné que les 7 années de famine sont passées et personne n'a manqué de rien. Il aurait été comme l'homme, le génie qui a empêché la famine dans le pays et dans l'économie mondiale et c'est un homme extraordinaire. Ses capacités extraordinaires opéraient pas dans des domaines distincts. Le génie ou le succès de Joseph réside dans, comment je dirais, l'intégration efficace des dons que Dieu lui a donnés dans sa vie que Dieu lui a donnée. C'est-à-dire, voici le chemin dans lequel je suis, je vais prendre les capacités que j'ai, les dons que j'ai, puis je vais les utiliser au meilleur. Je vais être le meilleur dans ce que je peux faire en ce moment. Et ça, c'est peu importe où tu te trouves. Il est pas devenu bon parce qu'il est rendu en Égypte, puis le deuxième après Pharaon. C'est pas là qu'il est devenu bon. C'est quand personne ne regardait puis qu'il a commencé dans le troupeau de son père. C'est là qu'il a commencé à être bon. Nous autres, on pense qu'on, oh, mais j'attends que Dieu m'appelle à telle affaire. Non, commence à être bon là, là. Oui, mais personne ne le voit justement. C'est là que ça commence. Le caractère et l'intégrité, c'est qui vous êtes quand personne vous regarde. C'est ça, la vérité. Ça, c'est l'intégrité. La personne que vous êtes véritablement devant Dieu. Personne ne me voit, je peux partir avec ça. Non, moi, je le sais. Ouais, mais si je dis ça, personne ne va le savoir. Oui. Moi, je le sais. Je pourrais pas dire ça. Je le sais, c'est pas vrai. Ça, c'est l'intégrité. Et Joseph était comme ça. Dans Genèse 41, on voit comment Joseph a géré une espèce de crise de famine économique majeure pour l'Égypte, puis dans l'interaction qu'il a eue avec les autres pays, il a été rendu des relations diplomatiques. Ça a été fou, son affaire. Mais dans tout ça, il est demeuré intègre avec sa confiance en Dieu et il n'a pas changé ses valeurs pour accommoder Pharaon. Jamais. Ça ressemble aujourd'hui à une autre histoire que je connais, que j'ai découvert dans la dernière année, d'un monsieur qui s'appelle Pat Gelsinger. Il a commencé, ce monsieur-là a commencé avec Intel. Intel, vous connaissez Intel, ceux qui ont inventé les ordinateurs, là, les chips. Là. Lui, il a inventé le chip 486 qui est devenu la base sur plein de choses. Il a créé le USB et le Wi-Fi. C'est ce monsieur-là. Là. Et aujourd'hui, il est PDG d'une compagnie qui s'appelle VMware, qui est liée avec Dell. C'est 25 milliards qu'il gère par année. C'est une compagnie énorme, là. Et il est reconnu pour le même genre de choses que Joseph était reconnu. L'histoire de Pat Gelsinger est reconnue aujourd'hui, présentement, 2019, reconnue comme le meilleur PDG qui existe d'entreprise en ce moment. Numéro 1. Voté par les employés. Le monsieur, on peut savoir la prochaine diapo. Ce monsieur-là, lui, il raconte à quel point sa vie, sa foi en Dieu fait partie de toutes les capacités ou tout ce que Dieu lui a donné, il le transmet dans l'entreprise. Il dit, tout le monde sait que je suis chrétien, ça les énerve. Il raconte dans plusieurs des messages qu'il a fait, et dans un de ses livres, ou le livre aussi qu'il a écrit, je pense que j'ai mis l'image de Juggling Act, comment balancer foi, famille et travail. Et il raconte comment il met en application ses principes de croyant pour diriger et apporter son influence sur la vie des autres et de l'entreprise. Et il raconte qu'à plusieurs moments, les gens l'appellent le pasteur du bureau. Mais il dit, moi, je suis pas un pasteur. Je fais pas de ministère dans une église. Là. J'ai aucun appel à ça. Mais il dit, les gens, ils viennent me voir tout le temps, puis ils me demandent, tu sais, ils me parlent. Puis lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il leur dit toujours les mêmes affaires. Il dit, j'ai fait ça pendant des milliers de fois. Et il dit à quelqu'un, comment je peux prier pour toi? C'est tout. Je peux-tu prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Et il dit, lui, qu'il a jamais eu un refus. Moi, j'en ai eu un dans ma vie, sur des je sais pas combien de centaines de refus. Une personne seulement. Mais tout le monde dit, why not? Hein? Why not, coconut? Qu'est-ce que ça change? C'est OK. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est, il essaie de dire aux gens, je leur dis pas, convertis-toi à mes croyances, à ma foi. Mais plutôt, genre, est-ce que je peux prendre ma foi puis la mettre dans ta situation? Est-ce que je peux juste prier pour toi, en priant pour toi? Puis il dit, j'ai fait ça des milliers de fois. Puis il dit, jamais personne ne m'a dit non. Puis il dit, plus tard, je reviens toujours pour leur demander, puis comment ça va cette histoire-là? Est-ce que ça a avancé? Il dit, c'est tout ce que je fais, c'est tout. Il dit, bien faire un travail, c'est être un exemple d'excellence qui mène à un témoignage dans la vie des autres. Il dit que malgré son temps chargé, il mentionne que le plus important pour lui, c'est de placer Dieu sur le trône de sa vie à chaque matin. Il dit, je commence en prière puis en lecture. En fait, il dit, je sais pas si c'est dans le livre ou dans un des messages ou d'articles. Il dit à un moment donné, j'aime ça parce qu'il dit, un de ces gars qui l'a mentoré, qui est fondateur de quasiment de Silicon Valley, lui disait, il faut que tu lises le Business Journal, qui est un magazine, qui est comme un journal, mais pour les affaires. Puis il dit, faut que tu lis ça. J'ai commencé à lire ça, il dit, pour me mettre dedans. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, non, il faut que je commence par God Journal. Il faut que je commence par le journal de Dieu, puis après ça, je fais le journal des affaires. Il dit, je mets Dieu à sa place. Dieu, c'est le premier dans ma vie. C'est fou l'influence puis le témoignage qu'il a aujourd'hui. Il est invité dans je sais pas combien d'entreprises pour raconter comment il dirige l'entreprise. Et tout ce qu'il raconte, c'est comment Jésus a fait une influence dans sa vie. Comment Jésus a un impact dans sa vie. Et comment ça, pour lui, ça emmène l'excellence dans tout ce qu'il fait. C'est cette notion-là de bien faire le travail. Et lui, il utilise ce verset-là. Il y a un verset qu'il utilise, qu'il mentionne comme verset, comment lui comprend sa relation avec Dieu, puis comment sa relation avec Dieu est nourrie par la relation avec les autres. Et il utilise le verset de Hébreux au 10e chapitre, le verset 24 à 25 qui dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. » Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. Lui, il dit, pour moi, aller à l'Église, c'est fondamental. Il faut que j'y aille. J'ai besoin d'être nourri. J'ai besoin d'être ressourcé. Il dit, pour moi, c'est comme une station de recharge. Il dit, je me sens comme un téléphone sans fil. Tu sais, un cellulaire. Il dit, toute la semaine, je roule. Mais oui, je branche ici, puis j'ai des petits bouts qui, hop, je me remets ça à charge un petit peu. Mais il dit, j'arrive le dimanche, c'est comme ma station, puis je m'installe. Puis il dit, j'y reçois, puis je suis rempli. Mais il dit, pas juste rempli dans le message, rempli dans ma relation avec les autres. C'est à travers ma relation avec les autres que je suis grandi aussi. Il dit, tout est une question de mettre Dieu en avant et que Dieu va travailler pour toi lorsque tu le mets à sa place. Il y a aussi ce contraste-là qu'on voit dans Genèse. Regardez bien ça, vous allez voir. Dans Genèse, il y a une histoire que vous avez peut-être déjà entendue qui s'appelle l'histoire de Babel. Vous avez déjà entendu parler de Babel, pas l'affaire de pas le logiciel de traduction, là. Babel, la tour, c'est pas juste une application dans un téléphone, là. La tour de Babel. Et regardez bien cette histoire-là dans Genèse, au 11e chapitre, verset 4, qui dit, « Puis se dire, allons au travail pour bâtir une ville avec une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous éviterons d'être dispersés sur toute la surface de la terre. » Certaines versions vont mentionner, au lieu de devenir célèbres, de nous faire un nom pour nous-mêmes. C'est comme on va devenir big. En fait, ce verset-là va apporter l'inverse de ce que je vous parle depuis tantôt. C'est-à-dire que cette idée-là, c'est que on ne sert pas Dieu, on veut se servir nous-mêmes. On veut être big, on veut réussir, on veut l'avoir à l'affaire. Moi, je veux me faire un nom pour moi-même. Je veux être célèbre, je veux être connu. Et c'est ça qui a amené que Dieu les a dispersés. Parce que c'est pas qu'il ait bâti une tour le problème. C'est pourquoi il la bâtissait. Parce qu'il y a des tours, il y en a eu d'autres depuis, hein? Et il y en a eu des plus hautes. Et ils n'ont pas été arrêtés, les tours, là. La réalité, c'est que c'est pourquoi Dieu a dit, non, non, vous ferez pas ça, là. C'est cette phrase-là, nous deviendrons célèbres. On va se faire un nom pour nous-mêmes. Nous sommes au service de nous-mêmes quand on pense comme ça. Et quand on est au service de nous-mêmes, on n'est plus au service des autres. On est carrément en train de s'en aller dans la direction opposée à ce que Dieu nous emmène à faire. Dieu veut nous emmener au service des autres, mais quand je travaille pour moi-même, je suis en train de travailler pas pour les autres. Donc, c'est ça qui fonctionne plus avec le plan que Dieu a. La vérité, c'est que tout travail est fait pour quelque chose et pour quelqu'un. Et la réponse à ça, quand tu sais pour qui tu travailles, pour quelle raison tu le fais, à qui tu le fais, tu vas savoir c'est qui ton maître. Ça va déterminer, en répondant à cette question-là, sachant, OK, je travaille pour qui? Je travaille pour moi-même. C'est toi le maître. Oh, mais non, mais moi, je veux servir le Seigneur. Non, c'est pas ça que tu fais. Mais si tu es les autres, et vous allez voir tout ça dans le Nouveau Testament à répétition, les autres, vous êtes là pour les uns et les autres, vous êtes là pour servir les autres. Ce concept-là est là depuis le début. C'est juste qu'on l'a peut-être mal vu, ou vu que ça a été distorsionné, on s'en est pas rendu compte que c'était tout croche. La vérité, c'est que tout travail est fait pour quelque chose ou pour quelqu'un, et en déterminant la réponse à cette question-là, tu viens de savoir c'est qui ton maître. Juste savoir, est-ce que je sers Dieu ou pas? Facile, tu fais ça pour qui? C'est simple. Je vais inviter Nico, on va terminer dans quelques instants. Ça m'amène à un dernier personnage, et vous allez comprendre le lien avec toutes les personnes. John Coltrane. Attends, on va revenir. Ferme la une minute. Je vais y revenir. Ok, ben là, c'est là. C'est trop tard. Je suis pas trop certain. Non, vous pouvez le laisser là. C'est beau. Je suis pas trop certain comment sa vie a terminé globalement. Okay? Je suis pas sûr. Mais une chose que je trouve super intéressante. John Coltrane, s'il y en a qui le connaissent pas, c'est probablement un des plus grands artistes de jazz de toutes les époques. En fait, c'est probablement, si c'est pas numéro un, il est ex-écho. En fait, c'est un des plus grands de jazz qui ait jamais existé. Et John Coltrane, c'est un saxophoniste. Et comme je vous dis, sur le plan spirituel de comment il a terminé, c'est pas clair. Mais je sais une chose, c'est que dans l'album A Love Supreme, Et j'ai mis en jaune une partie, je sais que vous le voyez pas, puis c'est voulu, parce que je vais vous le lire en français dans quelques instants. C'est probablement, cet album-là est considéré le meilleur album de jazz. Sinon, un des meilleurs de tous les temps. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cet album-là, il y a un texte écrit en arrière qu'il a écrit lui-même, ça s'appelle « Linear Notes ». C'est toutes les notes qu'il a écrites par rapport à une expérience qu'il a vécue. Et il a écrit ce texte-là à l'intérieur, et voici un extrait, la partie que j'ai mis en jaune, la voici. Ça dit « Au cours de l'année 1957, j'ai vécu par la grâce de Dieu un réveil spirituel qui devait me conduire à une vie plus riche, plus complète, plus productive. À cette époque, par gratitude, j'ai humblement demandé à avoir les moyens et le privilège de rendre les autres heureux par la musique. Je sens que cela m'a été accordé par sa grâce. Toute louange à Dieu. » Avant ça, il utilisait la musique pour se faire un nom pour lui-même, de devenir un géant, de devenir... Mais après cette expérience-là, l'amour de Dieu l'a complètement changé. Ça a changé la raison pour laquelle il faisait de la musique. Quand on lit le texte, on se rend compte qu'à partir de ce moment-là, il a vraiment fait un 180 degrés. 180 degrés, qui veut dire changer de direction, qui dans certaines versions épopées chrétiennes veut dire repentance. Il dit, je veux offrir ma musique pour rendre les autres heureux et que ce soit une offrande à Dieu pour lui. En fait, il venait de comprendre que la musique donnait, au début pour lui, la musique donnait un sens à sa vie. La musique était tournée vers lui. Mais quand Dieu est devenu la raison, la musique est devenue un instrument, un moyen d'utiliser pour rendre les autres heureux. Et lui, ce qu'il voulait, c'est dire, j'aimerais tellement pouvoir apporter le bonheur, la joie quand les gens vont écouter. Et c'est fou parce que l'album A Love Supreme est considéré probablement le meilleur album de jazz de tous les temps. Un amour suprême. La musique était plus à propos de lui, mais Dieu était devenu la raison et le sens de sa vie. Alors, il servait les autres parce que pour lui, il servait Dieu. Parce que pour n'importe qui, quand le travail est pour toi, te faire un nom, pas pour être au service de Dieu, tu trouves cette valeur-là ou cette identité-là dans ce que tu fais. Mais quand tu te mets à servir, quand tu travailles pour Dieu, tu comprends que cette notion-là de travail que Dieu avait prévu déjà depuis le départ, c'est pas mon identité. Je ne suis pas ce que je fais. C'est fou parce que, tu sais, c'est facile de s'identifier ou de se trouver une valeur dans ce qu'on fait. C'est facile, ça. C'est facile parce qu'on dirait, tout le monde me dit, je suis bon là-dedans, c'est bon, t'es bon là-dedans. Mais ma valeur, c'est peut-être ce qui fait que plusieurs personnes souvent m'ont posé la question, comment tu fais pour durer dans le ministère quand tout le monde te donne des bêtises ou t'envoie des courriels méchants ou... Je dis, il doit y avoir du monde qui te disent des bonnes affaires. Oui, il y a plein de gens qui me disent des bonnes affaires. Mais il y a une affaire que j'ai dû apprendre, c'est que ma valeur ne repose pas sur ça. Elle repose sur ce que Dieu dit de moi. Mon identité, ma valeur repose en lui. Parce que lui se plaît quand je fais ce que lui m'a appelé à faire. Il est heureux. Il est content. Il est fier. Quand Adam et Ève ont décidé de faire les choses pour eux-mêmes, ça a tout détruit. Quand ils ont décidé de faire les choses pour eux, bang, tout s'est détruit. En fait, quand tu arrêtes de travailler pour toi, tu te mets à travailler pour Dieu. Et quand tu te mets à travailler pour Dieu, savez-vous ce qui est fou? C'est que c'est Dieu qui t'apporte le repos. C'est lui qui te donne du repos. Parce que la Bible nous dit que Jésus est notre repos. Jésus dit, je suis le sabbat, je suis votre sabbat. En moi, vous trouvez le repos. Et quand je travaille pour Dieu, il renouvelle mes forces. Il renouvelle mon encouragement. Est-ce que je suis découragé? Ça m'arrive, ben oui. Ça m'arrive. Oh que oui. Moi, j'ai pas une espèce de petite carte, là, tu sais, une petite carte Visa, genre du ciel, que je mets ça dessus quand ça va mal. Seigneur, tiens, on recharge, tout va bien. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand ça va mal, ça va mal. Hey, des fois, ça va vraiment mal dans ma vie. J'ai eu des époques dans ma vie où c'était, je vous le confesse, où je me disais, je m'en sortirais pas vivant. C'est sûr. En fait, des moments où je me disais, Seigneur, il faut que ça arrête, viens me chercher, je suis plus capable d'en prendre plus. Là. C'est trop pour moi, là. J'ai eu ces moments-là dans ma vie. Des moments de désespoir, des moments de découragement, ça arrive, ça. Est-ce que ça fait que je suis moins bon? Non, je suis juste humain. Mais une chose que je sais, c'est que ma force ne repose pas sur mes forces à moi. Ça repose sur lui, sur Jésus. Et c'est pour ça que je dis, j'ai dû apprendre à m'appuyer sur lui. À dire, Seigneur, moi, j'y arriverai pas. J'ai tellement besoin de toi, t'as même pas idée. Puis de lui de me répondre, oh oui, t'en as encore bien plus besoin que tu penses. C'est vrai. C'est vrai. Et ce qui est génial dans ça, c'est que la Bible me dit une chose, et Jésus a toujours tenu sa promesse. Jamais je vais te laisser, je vais t'abandonner. Jamais. Jamais il m'a abandonné. Vous savez quoi? Je n'ai jamais, jamais, jamais été le chrétien que j'avais promis que je serais. J'ai jamais été le pasteur que j'avais promis à Jésus que je serais. Mais lui a toujours été le Jésus qu'il m'avait promis qu'il serait. Tout le temps. Il a toujours été fidèle. Il a jamais renié sa parole. Puis ce qu'il me dit, c'est que si tu travailles pour moi, moi je vais te donner du repos. Moi je vais faire ton nom grand. Moi je vais m'en occuper. Au début, j'ai expliqué à quel point, dans les premiers messages, j'ai expliqué comment les épines représentaient aussi tous ces tourments, ces irritants, ces frustrations à ton travail. Dieu avait dit, c'est des épines, mais des chardons qui vont sortir, qui vont pousser. Puis j'avais dit à quel point ça, c'était à cause de ça, tu vas vivre ça dans ton travail. Irritation, frustration. Mais je sais pas si vous avez réalisé quelque chose, mais quand Jésus a été crucifié, qu'est-ce qu'on lui a mis sur la tête? Une couronne d'épines. Toutes mes frustrations. Tous mes découragements. Tous mes irritants. Tout ce qui était difficile à porter et à subir à cause du péché et de la malédiction que ça allait apporter sur la terre. Jésus dit, moi, je le prends tout ça. Il a tout supporté ça. Il a expérimenté tout ça d'un coup. Et on se demande pourquoi il crie à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il était en train de prendre toute la malédiction. Toute cette malédiction-là qui avait été lancée, Jésus venait de la prendre pour moi. Et parce qu'il a pris ça, il me donne sa paix et son repos. Hébreux au 4e chapitre, le verset 10 dit, « Celui qui entre dans le repos préparé par Dieu se repose de son travail comme Dieu s'est reposé du sien. » Dieu nous donne du repos. Vous savez, une journée de congé, là. Soyez, sentez-vous pas mal. C'est voulu. C'est pour ça que vous l'aimez ce jour-là. Parce qu'il vous soulage. Il vous fait un bien d'enlever des frustrations, des irritants, des « Ah, oh, je suis plus capable. » Lui, quand je rentre au bureau, ou elle, quand j'arrive au travail, « Ah, oh, je suis plus capable. » Les chardons, là. Jésus, il sait de quoi vous parlez, là. Il est au courant. C'est pas une surprise. Pas besoin d'y cacher rien. Jésus a payé de sa vie pour te donner le repos dans le travail que lui t'a demandé de faire. Et que tu comprennes que lorsque tu travailles pour lui, il te donne son repos. Ça devient une joie de faire ce qu'il demande et d'être à son service quand je réalise et que je prends cette pensée-là. Comprenez que vous avez été créé pour les lundis et le travail. C'était le plan de Dieu depuis le départ.
Merci d'avoir pris le temps de télécharger ce message. Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet au www.eglisem.com. www.eglisem.com. Que Dieu vous guide et vous bénisse. Bonne semaine.